Alors bon, sur cette première présentation qu'on a partagée avec Jérôme, je vais d'abord vous donner quelques informations sur le contexte en fait de la création de la réponse à l'appel d'offres Cohort, qui date donc effectivement de 2011. Donc, Yves l'a rappelé, il s'agit d'un enjeu de santé publique. On décrit 7 000 à 8 000 maladies. Ça touche à peu près 3 à 6% de la population. Effectivement, on parle de 3 millions de personnes concernées, une trentaine de millions de personnes concernées au niveau européen. Ce sont des maladies qui sont extrêmement lourdes en général, associées à des handicaps importants, avec une morbidité, une mortalité qui n'est pas négligeable. Et nous avons la chance en France d'avoir initié par rapport à nos partenaires européens un certain nombre d'actions qui ont permis de structurer la prise en charge et la recherche autour de la prise en charge des patients et la recherche autour des maladies rares. Il y a quelques dates, évidemment, c'est très lapidaire là, mais je donne quelques dates phares. C'est la création d'Orphanet en 1997. C'est le premier plan national maladies rares en 2004 et qui a permis de poser les bases, on va dire, territoriales finalement de la prise en charge de ces patients avec la labellisation des 131 centres de référence qui sont affiliés aux 502 centres de compétences. Ça a été également, lors du premier plan, la possibilité de soutenir les laboratoires de diagnostic, qu'on les appelle du diagnostic approfondi, donc diagnostic moléculaire de ces maladies rares. Et avec le deuxième plan national qui a débuté en 2011, il y a un certain nombre d'actions. Alors, elles sont vraiment très, très résumées ici. Je n'ai pris que les items qui étaient en lien direct, on va dire, avec le programme Radicaux. C'est d'une part l'identification récente de 23 filières de santé maladies rares. J'en parle parce que ça a été l'occasion, au moment de la création de ces filières, de réunir les différents acteurs autour des maladies rares, c'est-à-dire non seulement les centres de référence, les centres de compétences qui existaient déjà auparavant, mais également les laboratoires de diagnostic, les laboratoires de recherche, les associations de patients. Là, et puis un autre point important, j'en dirai un mot aussi très rapidement tout à l'heure, c'est parmi les objectifs du deuxième plan national maladies rares, la création d'une banque nationale de données maladies rares, donc sous l'égide du ministère de la Santé, avec la définition d'un set minimum de données commun à l'ensemble des patients atteints de maladies rares en France. Alors c'est important parce que qui dit set minimum de données veut dire en fait que nous avons à colliger un certain nombre de données, les rendre aussi interopérables, les standardiser, les harmoniser, et d'où la collaboration très étroite depuis l'initiation du programme Radicaux avec le coordinateur du programme BNDMR au niveau du ministère de la Santé, qui est Paul Landais, avec son collègue Rémi Choquet. Et Paul, je le signale, donc, est membre du comité de coordination de Radicaux. Alors effectivement, il y a un certain nombre de défis qui sont à relever. Ce sont des maladies qui sont souvent complexes, multisystémiques, ce qui veut dire que les patients, en général, ne sont pas vus par un seul spécialiste, mais par plusieurs spécialistes d'organes, et ce qui crée de la complexité en termes de recueil d'informations, évidemment. Il s'agit non seulement de recueillir l'information d'un service, mais du deuxième, du troisième, dans différents hôpitaux pour un même patient. L'hétérogénéité clinique et génétique est bien connue. Sur le plan moléculaire, les bases moléculaires ne sont connues que dans à peu près la moitié des maladies rares actuellement, ce qui pose des problèmes diagnostiques, évidemment. Et quant aux mécanismes physiopathologiques, ils sont connus pour certaines maladies, mais très mal connus, voire inconnus pour d'autres maladies. C'est évidemment extrêmement important de se pencher également sur l'identification de ces mécanismes, puisque c'est la première piste rationnelle pour essayer d'identifier des nouvelles molécules à visée thérapeutique. Alors, les difficultés actuelles, en fait, elles ont été d'ailleurs mentionnées par Yves à l'instant, c'est effectivement l'hétérogénéité des moyens alloués selon les maladies rares, c'est les dispersions des nombreuses équipes, à la fois de soins, de recherche, d'assistants de patients, de laboratoires diagnostiques, sur lesquels nous, en tout cas dans le cadre du programme Radicaux, nous avons très peu de moyens d'action possibles. En revanche, il y a un troisième point qui est finalement le cœur du programme Radicaux, c'est cette complexité qui est liée à l'hétérogénéité des systèmes d'information. Et le cœur de ce programme, c'est d'essayer d'harmoniser les choses et donc de mettre les moyens, tous les moyens humains nécessaires en termes d'expertise et de ressources pour pouvoir résoudre ces problèmes d'interopérabilité de bases de données. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est tous les problèmes liés au codage, des signes cliniques, des signes biologiques, les problèmes ontologiques, les bases de données, et puis les connexions, comme on le disait tout à l'heure, qui très souvent n'existent pas entre ces bases. Alors, le contexte, effectivement, c'est un programme qui a été retenu dans le cadre du premier programme d'investissement d'avenir. Il y avait 10 cohortes qui ont été retenues. La cohorte radicaux ou les cohortes radicaux ont quand même cette particularité par rapport aux 9 autres cohortes qui ont été retenues d'être extrêmement complexes, c'est-à-dire que par rapport aux autres maladies qui s'intéressaient à la prise en charge ou à la recherche sur une maladie particulière ou un groupe de maladies particuliers, ici on est dans un domaine extrêmement vaste qui est celui des maladies génétiques. En général, des maladies rares, des maladies génétiques, 80% d'entre elles, vous savez, sont génétiques. Et avec donc plus de 7000 maladies, et puis une dispersion des équipes, une hétérogénéité des mécanismes physiopathologiques. Donc il fallait en fait répondre avec un modèle, déjà sans parler du modèle économique, mais un modèle de mise en place du programme très particulier. Et celui qui a été choisi, ça a été de non pas de disperser le financement qui aurait pu être obtenu sur l'ensemble des centres de référence maladies rares, avec chacun un programme de cohorte à l'appui, mais de construire une plateforme avec cette mise à disposition de la plateforme de ces expertises aux collègues qui désirent monter, développer, consolider une cohorte de patients donc atteints de maladies rares. Donc, tu l'as rappelé, donc il s'agit d'un programme donc émanant du ministère de la Recherche, le CGI via l'ANR, l'organisme coordinateur est l'INSERM, et il est géré par la DRC. Je voudrais remercier d'ailleurs à ce propos-là Sylviane Innocencio et toute son équipe qui nous ont considérablement aidés pour la mise en place du programme. Ça a été aussi le cas parce qu'en fait, on ne travaille pas seul, hein, on travaille dans des hôpitaux, mais ça a été et avec l'université. Donc, ça a été le cas aussi de l'université, l'UPMC en particulier, Annick et moi étant membres de l'Université Paris 6, nous avons sollicité également les compétences de l'UPMC pour monter le programme. Et puis une aide non, absolument non négligeable, mais extrêmement importante, ça a été celle de la PHP, puisque monter une plateforme et recruter du personnel, ça veut dire la nécessité d'obtenir des locaux. Et l'hôpital Trousseau, M. Pelé, son équipe, Monsieur Deville, le directeur du GH, et Monsieur Hirsch également, David Durès, se sont mobilisés pour pouvoir allouer à l'équipe Radicaux, 300 mètres carrés environ, qui ont permis de démarrer véritablement la plateforme. Le financement, c'est de l'ordre de 10 millions d'euros jusqu'au 31 décembre 2019, et comme ça a été rappelé, évidemment, ce financement n'est pas suffisant, et en fait il va falloir générer d'autres sources de financement pour essayer de pérenniser cette structure. C'est beaucoup d'efforts que de la monter, et on suscite effectivement beaucoup d'espoir. Et déjà, en fait, nous avons évidemment des contacts avec des partenaires du monde industriel, mais également un certain nombre de porteurs de projets ont déjà candidaté sur les appels à projets de type H2020, de type IRA ou d'autres projets européens, en espérant donc que nous aurons des réponses positives. Un certain nombre de projets ont déjà passé la première étape pour les projets qui étaient à 2 étapes. Donc nous sommes en attente de ces résultats. Alors, c'est juste une plaque pour rappeler les missions qui sont à la fois différentes et complémentaires entre Radicaux et la BNDMR, la Banque nationale de données maladies rares. La Banque nationale de données maladies rares, si on voulait schématiser les choses ici, vous voyez, sur cet empilement, ça représente les différents centres de référence du premier au 131e qui ont été organisés en filières. Il existe 23 filières également, les filières de santé. Et aujourd'hui, en fait, l'objectif est de recueillir pour l'ensemble des patients et l'ensemble des maladies, hein, donc l'ensemble des patients touchés par une maladie rare sur l'ensemble du territoire, de recueillir un minimum dataset qui permette de décrire l'offre, la demande d'offre, la demande de soins, est-ce qu'il y a une adéquation ou pas entre la demande d'offre et de soins, de repérer les patients qui seraient éligibles pour des essais thérapeutiques, de repérer les patients qui seraient éligibles également pour rentrer dans des cohortes. Donc c'est un programme de santé publique qui va concerner l'ensemble des patients. Et aujourd'hui, ce travail donc est coordonné par Paul Landais et Rémi Choquet, qui concerne pour l'instant 61 centres de référence sur les 131 qui ont été labellisés, permis de recruter 270 000 patients atteints de maladies rares, pour lesquels ce minimum dataset, qui comprend à peu près une cinquantaine d'items, donc partagés par l'ensemble des patients. Donc les premières données sont déjà accessibles. Et évidemment, cela demande déjà un travail en termes de système d'information, en termes d'interopérabilité. Et notre collaboration avec l'équipe de la BNDMR est évidemment essentielle pour qu'on soit également interopérables, évidemment, radicaux avec les bases de données de la BNDMR. Alors, si on représente, vous voyez donc ici l'ensemble des centres de référence, en fait, l'objectif est d'essayer de, à partir de l'identification de ces patients, de monter, de développer des cohortes. Alors, nous avions fait ce schéma déjà bien avant la mise en place des filières. C'était finalement un peu prémonitoire, puisqu'on avait imaginé un premier mode de remontée d'informations à partir des acteurs du terrain, c'est-à-dire en prenant en compte non seulement les coordinateurs de centres de référence, mais également les laboratoires de diagnostic, les laboratoires de recherche, des associations de patients concernés par un type de maladie, et demander en fait à ces groupes de professionnels dans les domaines des maladies rares de prioriser déjà leurs demandes, puisque évidemment avec le financement actuel, malgré la mutualisation des moyens qui a été choisie en construisant une plateforme, nous n'avons pas les moyens de monter autant de cohortes que de maladies. Donc il fallait une priorisation à partir du terrain, et c'est ce qui a été fait en partie au cours du premier appel à projet. Alors pour le programme Radico, il s'agit non pas d'un minimum dataset, mais d'un maximum en quelque sorte dataset. Essayer de recueillir le maximum d'informations phénotypiques associées aux données biologiques, voire aux omics, et qui concernent un groupe de patients sélectionnés selon des critères d'inclusion, avec un suivi longitudinal, donc un programme de recherche qui n'est pas donc là un programme de santé publique. Donc l'objectif, en fait, il y en a deux principaux. Le premier, c'est donc développer ces cohortes dans un objectif de recherche, encore une fois, donc avec un certain nombre d'objectifs particuliers, et certaines cohortes vont répondre à un ou deux de ces items. En général, on ne répond pas à l'ensemble des items pour un seul projet, parce que j'ai un programme de recherche. Donc, soit décrire l'histoire naturelle, donc avec une description très fine du phénotype, établir des corrélations génotype-phénotype, élucider leur physiopathologie, identifier de nouvelles pistes thérapeutiques, et puis des projets également pour évaluer l'impact sociétal ou médico-économique de ces maladies. Le deuxième objectif qu'on a inscrit comme un véritable objectif de programme Radico, c'est de promouvoir et d'intégrer des programmes de recherche internationaux, soit académiques, soit dans le cadre de partenariats, évidemment public-privé, puisque ça fait partie des règles de ce type de financement. Donc pour cela, comme je le disais en introduction, nous avons donc décidé de créer une plateforme opérationnelle. Donc il s'agit quasiment d'une infrastructure finalement, avec des expertises et des ressources pour pouvoir colliger les données sur les maladies rares, les structurer, la gestion de ces données, le contrôle qualité, l'analyse. Tout ça passe évidemment par le maître mot qui est l'interopérabilité, donc des différentes bases de données qui sont déjà existantes. Jérôme en parlera, mais c'est non seulement en fait des données sur les maladies rares, mais dont celles issues d'applications mobiles et d'objets connectés qui sont utilisés par le patient. Donc en fait, un certain nombre de cohortes, on aura un exemple tout à l'heure du reste par Jean-Louis Mandel, où les patients sont des acteurs du programme de recherche. Et donc générer de larges sets de données, de cas prévalents et incidents. Alors les cas prévalents, c'est important dans le domaine des maladies rares, puisque chaque équipe, finalement, s'est construit une expertise sur une maladie particulière, et compte tenu du faible nombre de patients, évidemment, la prise en compte des cas prévalents est extrêmement importante pour le programme de recherche. Et là, il existe des modèles, je ne suis pas expert dans le domaine, mais Paul, notre épidémiologiste, connaît ça très bien, pour pouvoir prendre en compte les données prévalentes et les inclure dans les données globales, avec les données incidentes, pour en tirer des conclusions sur le plan scientifique. Alors, ces expertises et ressources, en fait, elles s'articulent autour de trois pôle, on peut dire globalement, un pôle de recherche clinique, donc sur la plateforme, un pôle de recherche en système d'information, les activités transversales. Bon, je vais passer très vite parce que je ne sais pas si c'est utile de détailler tout cela, mais en fait, dans le pôle de recherche clinique, c'est vraiment toute l'élaboration du ICRF, c'est le data, les dossiers réglementaires qui sont extrêmement importants, data monitoring, data management, biostatistique, pardon. Le pôle de recherche en système d'information, on insiste sur le mot pôle de recherche également, parce que, comme tu l'as souligné, en fait, il y aura l'innovation également pour développer ces différents connecteurs, pour créer cette interopérabilité. Et évidemment, tout cela, il y a des freins importants sur lesquels nous travaillons beaucoup, qui sont les problèmes réglementaires, les problèmes juridiques, bon, et puis d'autres choses, activités transversales quand même on va dire plus positives, qui sont les coopérations européennes internationales, la dissémination, valorisation des résultats. Alors la gouvernance actuelle, vous avez donc le comité directeur qui est listé ici, le conseil scientifique de Radico, et que je voudrais également beaucoup remercier parce qu'ils ont suivi les difficultés de la mise en place du programme. Ils ont été vraiment d'une particulière aide pour surmonter les différents obstacles. Alors bon, je pense également à l'INSERM, mais à Thierry Damerval, je crois qu'il n'est pas là, mais il nous a également beaucoup aidé pour un certain nombre de questions clés. Et puis des experts étrangers, donc qui ont été sollicités en particulier pour la réponse au premier appel à projet. Alors les partenaires de la convention ANR sont listés ici, ceux qui ont signé la convention ANR avec l'INSERM sur ce programme Radico. C'est un petit peu artificiel parce que en fait, ce sont les partenaires qui ont initialement, pour qui en fait on était sûr que les responsables, les tutelles, les responsables allaient donner leur signature dans le mois qui suivait le dépôt de dossier. Et c'était déposé au mois d'octobre, je crois. On avait souhaité avoir la DGES comme partenaire, on avait souhaité avoir la conférence des présidents d'université comme partenaire, tout ça n'était pas possible malheureusement. Et donc finalement, les universités qui sont là, en fait, traduisent plutôt les représentants de ces universités, les collègues scientifiques, qui avaient l'assurance que leur président d'université allait absolument signer dans le mois qui suivait. Parce que si on déposait le dossier et qu'il nous manquait une signature, le dossier devenait non éligible. Le comité institutionnel et puis des structures associées qui sont consultées régulièrement pour articuler notre programme avec ces structures. Alors, ce premier appel à projet a été lancé au début de l'année 2014 et nous avons reçu en fait 63, pardon, lettres d'intention. Environ la moitié ont été retenues par le conseil scientifique et donc invitées à soumettre un projet complet. Le projet complet a été, en fait, sur les 32, 29 projets ont été soumis. Et sur les 29 projets qui ont tous été expertisés par un minimum de 3 experts étrangers, 16 projets ont été retenus, 16 projets complets. Donc un taux de réussite à la première étape de 51%, de 55% à la deuxième étape, donc un taux global de réussite de l'ordre de 25% pour ce premier appel à projet. Voilà, je vais terminer sur cette plaque avant de donner la parole à Jérôme, cette plaque qui liste simplement les acronymes des différents programmes qui ont été retenus suite à ce premier appel à projet, les différentes maladies qui sont concernées. Alors vous avez, tout à l'heure, vous aurez un peu de temps, j'espère, pour pouvoir visiter dans la pièce à côté les différents posters qui résument les objectifs de chacun de ces projets et où en est le stade de développement, le stade de maturation du programme pour chacun de ces projets. Voilà, je vais finir, je laisse la parole donc à Jérôme. Merci pour votre attention.
Alors, en un minimum de temps, je vais essayer de faire passer des notions assez complexes sur les cohortes. Il y a de la simplification. C'est une notion qui est un peu ésotérique, je pense, pour beaucoup de monde et même pour moi encore aujourd'hui. Mais il y a des problèmes très concrets. Je vais essayer de vous montrer comment, puisque mon rôle, c'est d'assurer la direction opérationnelle et scientifique de ce projet et donc d'une plateforme, comment on organise les choses actuellement pour traiter de front 16 cohortes maladies rares, ce qui est un challenge très intéressant. Ce que n'a peut-être pas dit Serge sur cette diapo, c'est qu'elles ont toutes leurs spécificités. Il y a des cohortes très classiques, observationnelles, il y a des cohortes avec de l'intervention, des prélèvements, Il y a des cohortes très originales, comme celle de Jean-Louis Mandel, qui sont des réseaux sociaux pour patients atteints de maladies monogéniques à déficience intellectuelle. Jean-Louis présentera. On a choisi une autre cohorte qui est Accueil, que vous verrez aussi. Le porteur, Patrick Calvas, la présentera parce qu'il y a l'imagerie. Et on a des cohortes, bien sûr, qui souhaitent avoir un déploiement d'objets connectés pour enregistrer des choses ailleurs que dans le cadre classique de la consultation. Il y a tout un potentiel. Finalement, c'est là que se passe la plupart des choses pour les patients. Et l'histoire naturelle de ces maladies, c'est à la maison, dans leur vie de tous les jours. Et ce n'est pas une ou deux fois par an en consultation qu'on peut forcément mesurer tout cela. Donc, cette plateforme, c'est une équipe d'abord. Et je tiens à citer un peu tous ses membres, comment on l'a structuré. Serge en a parlé tout à l'heure. Il y a donc trois pôles très importants qui sont en interaction, bien sûr, et structurés un peu de la même manière. Donc, je voulais citer Prisca Rigou, qui travaille à mes côtés depuis le début novembre 2013. Elle était là avant moi, d'ailleurs, qui est la chargée de mission opérationnelle. Et puis, ces trois pôles, les recrutements, il faut bien que vous réalisiez de radicaux les premières arrivées, c'est 1er mai 2014. Donc le travail et tout le travail qu'on va vous présenter, opérationnel, il a 10 mois d'âge finalement. Et les cohortes ont été sélectionnées en juillet. Donc vous voyez que nous essayons d'aller vite, nous avons un compteur au-dessus de la tête, le compteur du projet NR, et on a aussi des enjeux de pérennisation à traiter dès le départ. Donc le pôle de recherche clinique dont la responsable est Laure Jameau, alors Laure est dans la salle, tout le monde est dans la salle d'ailleurs, avec des chefs de projet clinique qui sont des métiers que vous connaissez certainement, des personnes qui sont souvent passées par des métiers d'arc et qui savent piloter aujourd'hui des projets cliniques, monter des protocoles, des études. Et également donc c'est Didier Bedin, Anne-Claire Cohen et Séverine Bieuvelet qui sont présents aussi. On peut faire un signe dans la salle. Les porteurs de projets les connaissent puisque chacun d'entre eux a un certain nombre de cohortes à suivre. C'est comme ça que s'est organisé ce pôle de recherche clinique. Et puis une personne très importante aussi, Patrick Simon, qui est data manager biostatisticien, donc lui qui apporte toute l'expertise sur le plan de gestion de la qualité des données. Et puis demain, les analyses biostatiques, dont le plan de data monitoring et de data management pour ces cohortes de radicaux. En face de ce pôle, nous avons le pôle de recherche en système d'information. Alors là, c'est un pôle qui a été peut-être plus difficile à concevoir et constituer, puisque ce sont souvent des moutons à cinq pattes que nous cherchons, des métiers un peu plus originaux ou récents. Je voulais faire passer un message, puisque nous avons des présidents d'université dans la salle aujourd'hui, c'est qu'on a besoin de formation d'un nouveau genre et de candidats qui seraient à cheval entre l'informatique et la connaissance des milieux cliniques et de recherche. Ça, c'est extrêmement important de développer ces filières. Nous essayons de faire un effort en ce sens, puisqu'on a des liens avec certaines unités de formation pour prendre des stagiaires. On en a déjà accepté et on veut travailler sur des trophées aussi avec les étudiants qui seront accueillis peut-être l'année prochaine sur des nuits blanches en fait des applications, mais ça c'est un secret. Bref, on encourage à pousser certaines formations ou spécialisations dans un sens qui nous intéresse. C'est celui de la e-recherche et de la m-recherche et on a besoin de ces métiers-là. Parce qu'on peut être informaticien, développeur, chef de projet. Si on ne connaît pas les contraintes du milieu de la recherche et du milieu de la donnée de santé, ça ne s'invente pas comme cela. Il faut du temps pour comprendre ce que c'est qu'un SIH hospitalier et comment on interagit et comment on arrive à faire sortir de la donnée des hôpitaux pour pouvoir justement travailler dans des projets collaboratifs. On a aussi des métiers liés au développement informatique parce qu'une fois que les chefs de projet... Donc le responsable c'est Iskander Akoun. Une fois que les chefs de projet Camille Biard, Rabeh Mesgar, Yassine Gareb ont un cahier des charges, savent ce qu'il faut construire comme connecteur, mettre en place au niveau des ressources et de l'infrastructure de cohorte, il faut des personnes pour passer à l'exécution et ce sont les métiers du développement. On a besoin d'autres types de métiers aussi, des personnes qui sont spécialisées dans l'orchestration, notamment des systèmes d'information dans le développement des machines virtuelles Et ça, c'est vraiment des métiers de nouvelle génération. Et puis, quand on en sera, et on discute déjà de cela actuellement, aux applications smartphone, aux outils de, j'allais dire, de M-recherche, c'est une notion assez nouvelle, après la M-santé, il faut aussi un savoir-faire de ce côté-là pour déployer ces instruments. On a un pôle de communication et partenariat dont la responsable est donc James Manley, notre développeur actuel. Un pôle de communication et partenariat, Leïla Lanèche en est la responsable. Et puis des prestataires, il ne faut pas les négliger, ils nous apportent beaucoup. FCRIN notamment, et on a fait un effort considérable pour être en lien avec les grandes infrastructures ANR, INSER notamment, FCRIN, qui apporte des ressources actuellement, biostatistiques et en méthodo de design, de conception des études. Donc je ne sais pas si les personnes d'écran sont dans la salle. On a Eric Monsieur Vico et puis Madame Corinne Alberti qui est là aussi. Merci beaucoup FCRIN. Donc qui revoit nos protocoles, j'en reparlerai. On a une ressource juridique qui est essentielle et dont ne dispose pas beaucoup de projets qui s'en remettent directement aux agences, soit de valorisation, soit de d'autres types de structures internes, mais nous avons préféré préparer une bibliothèque de documents standards, des accords de consortium, des chartes, je vais vous en parler, qui seront ensuite validés, bien sûr, et qui sont déjà validés par la direction des affaires juridiques de l'INSERM, par l'APHP, qui a reçu aussi ces documents pour nos cohortes APHP. Mais ça permet de gagner un temps considérable parce que nous connaissons nos spécificités au niveau de radicaux et les conditions juridiques de partenariat que nous souhaiterions proposer aux partenaires. Et donc, ça permet de gagner du temps sur la validation ensuite et la signature par tous les partenaires. On a deux sociétés aussi partenaires très importantes. Bon, Alphen pour la gestion du parc informatique, des stations, serveurs et l'administration des comptes. Ça nous aide beaucoup. Le DSI de la DR6 est aussi très efficace au niveau de la délégation régionale. Mais pour tous les jours, si je puis dire, des ordinateurs et notre système qui est dans le nuage, c'est-à-dire on peut voler nos ordinateurs, etc. Les dossiers, tous les documents de travail, la bureautique est toujours disponible. Cette société nous aide, c'est Alphen. Et enfin, une société très intéressante, c'est la société Aizen qui est conseil pour l'intégration des ressources, l'orchestration des systèmes et surtout l'industrialisation des process parce que notre objectif, c'est de faire toujours plus de cohortes avec des moyens qui sont pour l'instant fixes. Mais nous savons que si l'approche cohorte est industrialisée au sens noble du terme, c'est-à-dire s'il y a des process, des machines virtuelles qui sont applicables à X cohortes, nous gagnerons ce pari. En faisant des économies aussi pour les dépenses de recherche. Alors, la première étape quand on monte une cohorte, et vous allez voir que c'est très simple finalement et concret, c'est bien sûr d'identifier le porteur du projet, c'est le site investigateur de l'investigateur principal, parce que c'est les premiers liens qui vont s'établir avec lui pour comprendre son synopsis d'études et travailler avec lui pour l'affiner, le faire mûrir. Bien sûr, il va y avoir un promoteur légal de cette étude. Nous avons plusieurs promoteurs déjà, l'INSERM pour beaucoup de nos cohortes, mais aussi l'APHP et des CHU de région, avec notamment le CHU de Strasbourg pour une cohorte. Les associations de patients, très important pour nous parce que nous savons qu'elles peuvent apporter beaucoup dans ce dialogue et ce travail préparatoire, notamment sur la conception de questionnaires adaptés aux patients parce qu'ils comprennent dans la perspective du patient comment expliquer les choses et avoir des items, des champs d'information faciles à comprendre ou adaptés, si vous voulez, au patient et à sa famille quand elle intervient sur ces questionnaires. Mais ils sont aussi très important pour faciliter demain le recrutement dans ces cohortes. Donc, il y a vraiment un échange essentiel, et c'est déjà le cas pour toutes nos cohortes. Vous verrez sur les posters qui sont présentés, sur chacun des posters, des associations de patients sont mentionnés. Donc, on essaye de les intégrer dans ces activités. Bien sûr, les centres de référence qui seront associés au site investigateur principal pour inclure demain les patients. Les structures de recherche, très important, les laboratoires de diagnostic, parce que nous associons aussi toutes nos données phénotypiques aux données omics qui vont être collectées. Alors, on pense tout de suite, bien sûr, à la génomics. Ce n'est pas seulement cela. Toutes les maladies rares n'ont pas un support génétique. Vous verrez qu'on a une cohorte sur les maladies d'empreintes qui sont liées à des mutations, des épimutations. C'est de l'épigénétique. Et il faut savoir travailler avec d'autres omics, la métabolomics, par exemple. Et j'en citerai beaucoup si on avait le temps, mais c'est vraiment des données essentielles qu'il faut savoir corréler à nos données phénotypiques. Très important aussi, les biobanques, puisque dans beaucoup de nos études, nous collectons des échantillons et des liens avec des infrastructures comme celle de Georges Daguerre, biobanque. Nous avons déjà eu des rendez-vous avec Georges pour s'assurer que l'information sur l'échantillon disponible est collectée aussi par Radico, parce que si nous voulons très tôt construire des partenariats avec les industriels et avec les patients, leurs familles, il faut savoir quels sont les échantillons disponibles, en quelle quantité et selon surtout quels critères qualité, standards, procédures, ils sont stockés, archivés dans ces centres de ressources biologiques. Très important aussi, comité consultatif indépendant. Alors, c'est pas de la décoration, hein, ce comité consultatif. On peut y mettre bien sûr des experts étrangers qui seront les partenaires demain de nos projets européens. C'est une première stratégie, c'est-à-dire qu'on s'assure qu'ils suivent l'histoire de la cohorte pour préparer l'interopérabilité de demain, qu'ils nous conseillent. Et puis les industriels. Les industriels ont eux aussi une place très importante dans l'histoire précoce de nos cohortes. Et je pense que Zena Antoun, qui interviendra pour donner le point de vue d'Aris, ne me contredira pas. Plus ils sont impliqués tôt dans une structure qui a d'ailleurs une gouvernance claire, plus ils peuvent aider le consortium à préparer les bases d'informations qui vont les servir selon des critères qualité qu'ils auront compris et auxquels ils feront confiance. Donc c'est une préparation, si vous voulez, du partenariat public-privé dans un climat de confiance, de compréhension des fonctionnements et surtout de garantie de qualité de la manière dont les activités sont développées. Ils ne sont pas dans la gouvernance de nos cohortes, ces industriels. En revanche, nous les associons de cette manière pour donner un avis consultatif sur la préparation du lancement de ces cohortes. Alors, la première étape, c'est, je vous l'ai dit, l'identification des acteurs, mais je vous ai parlé des institutions, mais il y a les individus, bien sûr. Et là, ça commence à devenir un travail complexe, puisqu'il faut repérer, identifier tous les acteurs de toutes ces entités qui vont travailler dans l'étude cohorte à tous les niveaux, dans la saisie de données, dans le contrôle qualité, le data management, le data monitoring. Pourquoi il faut le faire? Les investigateurs principaux, secondaires, etc. Pourquoi il faut le faire? Parce que notre système d'information de chacune des cohortes est conçu aussi sur l'attribution et la gestion de profils et de droits qui vont définir les accès, les modes d'accès. Il y a des droits d'écriture pour les opérateurs de saisie, il y a des droits de correction des données, et donc ces profils types doivent être associés à des noms de personnes qui demain rentreront ou contrôleront la donnée rentrée ou modifieront après contrôle ces données. Ce n'est pas les mêmes profils, et donc c'est un travail essentiel, aussi parce que c'est la condition sine qua non d'une bonne communication dès le départ au sein de la cohorte. La deuxième étape, si je puis dire, c'est la mise en place du cadre partenarial du consortium. Là aussi, une étape essentielle si on veut bien travailler et si on veut installer un climat de confiance entre tous les acteurs, c'est la construction des documents juridiques. Et la première chose, c'est le lien qui unit Radico au promoteur, puisque le promoteur, c'est le représentant légal devant les agences réglementaires, l'état de la conduite de l'étude et de la qualité de l'étude. Donc, il faut qu'il nous confie un certain nombre de tâches, celles que je vous ai présentées, cliniques, des systèmes d'information. Et donc ça se transpose par écrit, par ce qu'on appelle, nous, un contrat de partenariat et de délégation de tâches. Alors, quand le promoteur Céline Serme, ça ne pose pas de problème, on est dans la même maison. C'est un règlement, une connaissance avec le pôle de recherche clinique de Claire Lévy-Marchal. Quand le promoteur n'est pas l'INSERM, c'est la PHP, on doit mettre par écrit ces choses-là clairement. Et on a déjà commencé ce travail avec... tout le monde est présent du côté de la paix, donc avec Anne Gisembert notamment, puis l'équipe de Florence Grenacia sur les aspects valorisation, bien sûr. Et c'est des choses donc, qu'il faut clarifier tout de suite avant de pouvoir commencer le travail effectif. Ensuite, il y a les liens entre tous ces acteurs que je vous ai décrits. Alors, c'est un accord de consortium, je n'insiste pas sur le contenu, qui décrit une gouvernance. Et là aussi, l'industrie le dira, plus la gouvernance est claire, comprise dans un consortium et dans une plateforme comme des cohortes comme Radico, plus les industriels sont prêts à établir ces partenariats parce qu'ils savent que les choses sont organisées en interne, ils savent à qui s'adresser, ils savent qu'il y a des règles et un fonctionnement compris par tous. Et puis la charte aussi de la cohorte, qui est un document essentiel. Et puis enfin, bien sûr, il faut aussi qu'il y ait des liens juridiques transcrits sur un papier entre le comité consultatif indépendant et le promoteur de la cohorte, qui définira leur rôle, la fréquence des réunions, etc. Alors, maintenant, comment on construit la cohorte quand on a mis tout ça en place? Sur l'aspect clinique, l'aspect recherche clinique, Radico et le site investigateur, c'est-à-dire le site de l'investigateur principal, avec les associations de patients, travaillent à la préparation et la conception du protocole, des formulaires et de tous les autres documents clés qui sont les notices patients, les plans de data monitoring et de data management. C'est une étape essentielle avant même d'aller voir le promoteur INSERM ou APHP ou CHU de Strasbourg. Il faut que ces choses soient prêtes et que la question scientifique ou les questions scientifiques ou médico-économiques qui justifient la mise en place de la cohorte soit extrêmement clair, qui est un objectif principal, des objectifs secondaires et des hypothèses testées qui ont mené à cette conception de l'étude. On peut se faire aider, c'est ce qu'on fait déjà pour arriver à un protocole solide par des structures qui sont dédiées à la recherche clinique en France comme EFCRA, mais aussi par les pharmas qui sont inclus, comme je vous l'ai dit, dans notre comité consultatif. Et quand la chose est mûre, le dossier est mûr, eh bien, on l'adresse à l'établissement promoteur, à la DSCD de l'APHP ou au PRC de l'INSERM, le pôle de recherche clinique. Et c'est lui qui a la mission de déposer le dossier réglementaire complet aux agences ad hoc. Alors les agences ad hoc, vous allez me dire lesquelles sont-elles. Ça dépend bien sûr de la nature de l'étude, si elle est observationnelle, interventionnelle. Ça va définir un circuit de soumission avec le CCTRS, le CNIL, le CPP, tout ça, c'est fonction de la qualification de l'étude clinique. En parallèle, l'équipe de Radico, avec les informaticiens qui sont dans les sites, développe les outils qui vont préparer en fait, et définir les outils de collecte d'informations dans cette cohorte. Alors, on se fait aider déjà de nos partenaires, la BNDMR, qui nous conseille sur l'identifiant patient, par exemple, ou sur le minimum dataset que nous intégrons dans nos CRF de cohorte, nos case report form de cohorte. Et puis, on peut se faire aider par d'autres structures. On travaille déjà beaucoup avec l'ICMO des technologies de la santé. On a d'ailleurs été introduit dans un workshop qui aura lieu à la fin du mois de mars et qui est un peu le lancement de grands chantiers d'INSERM et d'Avisan sur ces technologies de l'information au service de la recherche en santé, et puis des structures de l'INSERM comme le LIMIX avec qui nous souhaiterions développer des partenariats de recherche sur des grandes thématiques comme les ontologies pour décrire en fait les maladies, les ontologies médicales, parce qu'on sait très bien qu'il y a plusieurs systèmes qui coexistent, il y a Orphanet, il y a HPO, enfin dans le domaine de la description du phénome chez ces patients. Plusieurs choix sont possibles, il faut les réconcilier et le LIMIX est vraiment à la pointe pour travailler sur ces aspects de sémantique et de description des maladies et des signes chez les patients. La BNDMR aussi du moins avec un outil qui s'appelle LORD qui a été développé par l'équipe de Rémi Choquet. Donc l'avis pour développer ces outils est important et la recherche associée également. Nous déployons ensuite ces ICRF d'abord en pilote et en test. Et quand les autorisations sont obtenues, eh bien, on peut passer ensuite au principal avec l'établissement promoteur et puis la plateforme Radico, et bien sûr toutes les équipes que je vous ai décrites tout à l'heure, pour lancer l'étude. C'est ce qu'on appelle le kick-off dans le jargon clinique, qui va définir avec les outils qui ont été testés et qui sont donc fonctionnels, qui vont permettre ce qu'on appelle le go, la première inclusion et l'incorporation des des patients. La mise en place des outils et de l'infrastructure. Alors, je vais faire vite. Chez tous ces acteurs, il y a beaucoup d'outils préexistants, des dossiers patients papier, des outils plus élaborés déjà mis en place au sein des filières, mais il y a aussi tout ce qui est issu donc, des laboratoires de diagnostic, la génétique, bien sûr, mais aussi les résultats d'analyse, et puis des bases de données hétérogènes dans les différents centres. Ça peut être de l'Excel, ça peut être des bases 4D, ça peut être de l'Access, et bien sûr l'imagerie médicale qui est souvent très importante. Les biobanques, il y a de l'information sur les échantillons stockés dans ces biobanques, il faut savoir la récupérer. Et puis pour le suivi des études et pour les besoins des questions scientifiques posées, on va avoir d'autres sources d'informations qui sont ces applications smartphones que les patients, voire même les acteurs sociaux, pourront remplir demain. Elles existent déjà et nous les étudions en ce moment. Ou les objets connectés, on a la chance d'avoir WeThings dans la salle aujourd'hui. Vous avez vu cette balance partout dans le métro, qui est un exemple d'objet connecté qui peut servir dans nos études cohortes. Quand ces sources d'informations préexistantes sont identifiées, on peut alors les rendre interopérables. Ça veut dire d'abord identifier les patients qui sont dedans, contrôler la qualité des données, les réconcilier. Et avec l'aide de Bamara, donc en s'appuyant sur le set minimum de données, on peut passer donc justement à l'intégration de ces données qui auront été utiles, définies pour les besoins de la cohorte, dans le système Radico, sur la base des ICRF. Il ne s'agit pas de re-remplir l'ICRF pour ces patients prévalents, mais pour les patients incidents, donc on remplit sur la base d'un identifiant patient ces informations utiles sur ces formulaires. Et tout ça va dans la base de données de la cohorte, qui est étanche des autres bases de données des autres cohortes Radico. Vient ensuite l'étape d'analyse. Une fois que la collecte est terminée, les outils d'analyse que vous connaissez peut-être peuvent être greffés sur le système Radico parce qu'il est interopérable, que ce soit des outils de biostatistique comme R, Stata ou d'autres qui seront utiles, et puis des outils de modélisation aussi de toutes ces données complexes. Et ça permettra donc d'exploiter la connaissance pour revenir bien sûr au premier acteur de nos cohortes qui est le patient et sa famille, donc avec un bénéfice de prise en charge amélioré pour ces patients. Alors, tout ça se valorise, et vous l'avez compris, se valorise dès maintenant dans notre construction, avec des activités de communication, l'évaluation, bien sûr, des demandes qui vont être soumises à la gouvernance de la cohorte, l'étude des critères donc, pour des besoins d'études thérapeutiques, par exemple, puisqu'on aura une infrastructure, c'est-à-dire un ensemble de patients, un système d'information en place, on pourra définir des critères d'inclusion dans des sous-études thérapeutiques, diagnostiques, de biomarqueurs ou même d'objets connectés à valider sur certaines sous-populations de patients et s'assurer que ces standards et procédures sont interopérables avec les acteurs qui nous demandent de faire ces études autour de nos cohortes radicaux. Des consentements, parce que pour inclure des patients dans ces études qui valorise les cohortes, il faut que les patients soient d'accord. Et puis, bien sûr, la transformation de ces études en contrat de collaboration écrit avec tous les acteurs concernés. Alors, la valorisation et la dissémination se fait par des partenariats. On pense au groupe pharma, mais il ne faut pas oublier aussi qu'on a toute une autre industrie qui s'intéresse et avec qui on échange déjà à nos cohortes maladies rares, parce que c'est les meilleurs pilotes, les meilleurs modèles pour tester et valider à des fins de santé et à des fins de recherche ces outils. C'est l'industrie des nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est les objets connectés, c'est les outils de santé mobile et de e-santé qui peuvent être aussi très utiles pour les chercheurs et les patients dans ces études de cohortes. Il y a les projets européens. Serge vous a dit qu'en 6 mois, on a déjà monté près d'une dizaine de projets H2020 et IRAR, l'acte d'intention, et puis on est passé en étape 2 déjà pour certains d'entre eux. Et puis la valorisation, ça se fait aussi par une confiance que nous accordent les autorités de santé, la NSM, au niveau européen, pour que les industriels, en échange de gages, d'incentives, comme on dit, qui sont les ATU, les autorisations temporaires d'utilisation de médicaments, fournissent le rationnel nécessaire pour obtenir justement ces labels en fait qui facilitent l'utilisation de médicaments dans le domaine des maladies rares. Donc il faut aussi se mettre en lien avec ces autorités de santé. Voilà, je termine ma présentation et on va passer.